Salut, là-bas si j'y suis. Il est 10h57. Alors j'essaye depuis le début septembre d'écouter France Inter. Je dois avouer que c'est épouvantable. Je ne sais plus où je suis. Et là, depuis 10h, alors je zappe. Je vais sur France Musique, France Culture, et puis je reviens sur France Inter. Mais depuis 10h, il y a un type qui n'arrête pas de dire toutes les 10 secondes énergie, 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 énergie. Et il y a une animatrice très sympathique au demeurant, mais je ne sais pas. Bon, il parle d'énergie et lui, il défend énergie. Alors je voudrais demander, est-ce que énergie peut consacrer une heure en France Inter sur ses ondes, sur son média global, et laisser parler, par exemple, tiens, Daniel Mermet sur énergie pendant une heure? Moi, je voudrais bien que ce soit possible. Salut à tous! C'était Nicolas du Tarn-et-Garonne.
C'est juste pour faire un petit commentaire sur le spécial Liban de France Inter ce matin à 9h30 avec des envoyés spéciaux sur place et une super page de pub pour le Charles Leclerc avec toute la RTAP pour cette merde à roulette là. Donc voilà, c'était un peu scandaleux d'entendre cette publicité gratuite pour Dassault et ses engins de mort qui continuent d'être fabriqués et dont on est fier parce que ça rapporte des sous visiblement à l'État français et puis à ces gros cons industriels de l'armement et des médias du coup. Merci, salut, c'était Cachou de Montpellier.
Comme il y a des gamins pour qui une pécadille et sont privés de goûter au retour de l'école, moi je me sens privée de là-bas si j'y suis 4 jours par semaine parce que à 15h je travaille et je trouve ça injuste. Bon, par contre, ils n'ont pas déplacé le téléphone sonne, toujours à 19h20. Hier soir, un thème qui m'intéresse, Cuba. Ça m'intéresse entre autres parce que j'y ai fait il y a 2 ans un séjour formidable parmi des gens formidables. Alors j'appelle le standard de France Inter vers 18h30 pour soumettre une question. Et à 19h20, j'allume ma radio. Bon, c'était un débat vraiment intéressant, avec omniprésent dans le rôle du procureur Serge Raffi, inébranlable matraqueur contre Castro et Cuba. Seulement, il avait face à lui des interlocuteurs intelligents et pas sectaires. Ma question n'a pas été retenue. Elle était pourtant pas perfide. Voilà. J'ai vu à Cuba une réalité énorme et magnifique au regard de ce qui se passe ici. Cuba, c'est un pays complètement multiracial, où noirs, blancs et métis vivent ensemble dans une osmose de couleurs et des mentalités, sur un pied d'égalité. Hier, cet aspect de la réalité de Cuba n'a pas été évoqué. Parce que quand on parle de Cuba dans les médias français, on en appelle davantage aux opposants, qui sont toujours des blancs. Par exemple, en France, Édouard Domanet ou Zoé Valdés. Même blancheur de peau chez les anticastristes de Miami. Bah, ma question, c'était pourquoi?
Voilà, mais en tout cas, ça prouve qu'on a encore des auditeurs. Hein. On n'a peut-être pas les auditeurs qu'on souhaiterait. Mais ils sont peut-être pas très corrects et tout. Mais enfin, ça prouve quand même qu'on en a encore quelques-uns. Ils n'ont pas tous fui. On n'a pas réussi à les faire tous fuir. Il y en a qui s'agrippent à leur transistor et c'est très bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans des lieux, le dernier endroit, la tombe. La tombe ou l'urne, hein? Votre tombe, vous la voulez où? Voilà. C'est une question que, un peu saugrenue, c'est vrai, mais vous allez voir jusqu'où ça va, que Dila Tebi a posé à des gens divers et variés, et qu'une petite phrase que je trouve particulièrement belle peut illustrer, c'est une phrase de Pierre Légaré, le Québécois Pierre Légaré, qui dit: un tatouage drôle ne coûte pas plus cher et peut changer complètement l'ambiance dans la salle d'autopsie. Voilà. Votre tombe, vous la voulez où? C'est juste après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut l'équipe apiculteur. Je sors de mon rucher pour vous dire de continuer comme ça et vous allez pulvériser votre record d'audience. Et à propos de résistance qui s'organise, j'attire l'attention de tous vos auditeurs sur une première, à savoir que pour la première fois, une manif nationale est organisée contre le lobby pétrolier. Ça va se passer ce samedi 16 septembre à Valence. Pour plus de renseignements, consultez sur Internet Réseau Action Transport. Je répète, Réseau Action Transport. Contre le lobby pétrolier, fauteur de guerre, d'accidents routiers, venez dire non à l'effet de serre et surtout discuter de nouvelles pratiques de résistance non violentes, mais énergiques. Qu'on se le dise. Salut.
Bonjour, la Basse J'y suis, c'est l'équipe de la radio associative Plume FM dans le centre Morbihan, qui a signé d'ailleurs la pétition pour vous garder sur les ondes de France Inter. On tient à vous informer que nous organisons une fête de soutien à notre petite radio libre qui a du mal à s'en sortir comme beaucoup d'autres petites copines. La fête des déplumés, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça se passera à Plumelec samedi prochain dès 9h et pendant 24 heures au programme concerts, débats sur l'avenir des radios associatives, concerts, comptes, etc. Et pour plus d'infos, vous tapotez www.plumefm.net. Et vous pouvez même nous écouter sur le net si la nouvelle grille de France Inter ne vous plaît pas. Allez, à bientôt, ciao.
Je vais avoir 70 balais. À cause de toi, je me suis retrouvé à Millau pendant 2 jours. J'ai fait toutes les manifs contre le CPE. J'ai même attrapé la grippe sous la flotte. Mais merci parce que j'avais l'impression d'être tout seul. Maintenant, une chose. Il y a un truc qui me turlupine, tu sais. C'est à propos de l'amiante. On est en train de raser les tours, les barres et tout. On les voit exploser. Mais c'était pas pour une amiante, ces immeubles. Où est-ce qu'ils vont, les gravats? Je compte sur toi pour se renseigner parce que il n'y a pas beaucoup de monde actuellement qui essaie de voir un peu ce qui se passe. Allez, je vous embrasse tous. Vous êtes des braves mecs, même les nénettes.
Voilà, je suis sur Toulouse. Nous sommes en train de mener une action pour mon mari qui est à l'heure actuelle retenu au centre de rétention de Toulouse. Où un avis de reconduite à la frontière a été prononcé contre lui. Voilà, je tenais à le signaler. Nous nous battons sur Toulouse, sur le quartier d'Ampalo. Il y a des choses qui se passent. Merci, au revoir.
Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Célia, je suis de Dordogne et je voulais poursuivre un peu le discours d'une jeune fille que j'ai entendue pour les framboises, le ramassage des framboises. Alors effectivement, oui, c'est la grosse arnaque, vous voyez. Moi, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans, j'ai ramassé les framboises. Effectivement, j'ai travaillé 3 semaines pour 1500 francs. Voilà, donc c'est d'arnaque, il faut pas faire des framboises. Ou alors à moins de les faire, si on peut vraiment pas faire autrement, il faut les manger sur place, quoi. Au moins, c'est toujours ça de prix. Hein. Parce que ils nous mettent... c'est payé au plateau. Hein, le plateau, il fait 2 kilos. Ça fait 14 francs du plateau, 14 francs brut. Et donc, voilà, on arrive à même 1500 francs hein, pour 3 semaines de travail. Alors on y va tous les jours. Eh bien, il faut suivre les rangs, comme ils disent. Il faut suivre les rangs pour le lendemain. Et sur la fiche de paye, par contre, ils nous le déduisent en jours de travail. Hein, ce qui fait que pour 1500 francs, ben, ils disent qu'on a travaillé 5 jours. Ce qui fait que oui, ça paraît correct. En fait, c'est pas du tout ça. C'est 1500 francs et on y va 3 semaines. Donc ça ne paye rien du tout. C'est de l'arnaque. Voilà. Par contre, maintenant, je travaille plus dans les framboises. Je suis à l'usine. Hein. Et ça tombe très bien parce que bah, ça me permet d'écouter là-bas si j'y suis tous les jours à 3h avec mon petit poste. Voilà.
Bonjour, mon nom est Bénédicte, je vis à Montréal et j'aimerais savoir s'il existe un repère. Sinon, vous pouvez éventuellement donner mon numéro de téléphone. C'est dans le 514-252-2642 pour éventuellement en créer un ici. Merci beaucoup, au revoir.
Et bonjour, c'est Pascal à Jutz en Lorraine. Pour vous dire que mon podcast fonctionnait très mal, j'avais des problèmes, et ben là, ça m'a motivé. Alors du coup, ben maintenant, sur iTunes, j'ai mon petit dossier mermé, et puis tous les jours, dans le train, ben, j'écoute là-bas si j'y suis, à l'heure que je veux. Alors qu'avant, ben, quand je pouvais l'écouter à la radio, ben, je ne pouvais pas la réécouter. Maintenant, je peux l'écouter quand je veux. Voilà, et ben, merci à France Inter, bravo à l'équipe, et puis à très bientôt. Au revoir.
Je suis mort. Je suis bien mort. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur mon sort. Elle est enfin venue, la femme que j'adore.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Dilatébi. Là-bas, si j'y suis, votre tombe, on vous la met où?
Flight number 2, arriving from New York.
Mon père était de la campagne, ma maman aussi. Ils n'avaient donc pas été à l'école. Ils ont arrêté à 12 ans. Ils n'étaient pas instruits, intelligents, certainement à leur manière. Et j'étais tellement fière, moi, de pouvoir leur prouver que même s'ils ne pouvaient pas me faire réviser mes devoirs, mes leçons, que je pouvais y arriver seule. Et ça, ça a été ma fierté. Là, je revois encore ce jour mémorable, première de la classe. Mon père pleurait, et ça, j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir, lui, et de lui faire un gros bisou. Il est toujours chez moi, dans son urne. Depuis 1997, toutes les semaines, je nettoie le petit chapeau de l'urne. Il a eu droit à Fernandel la semaine dernière, avec Don Camillo et Pépone, et je pense qu'il regarde la télévision avec moi. Je lui dis, papa, t'as Fernandel ce soir. Elle est là, mon urne, dans ma chambre. Il est là, avec ses anges. Mon père était très... il a été enfant de cœur. Il adorait Dieu. Il l'a toujours respecté et il disait toujours « protéger mes enfants ». Eh bien, moi, je me le protège à ma façon. Il est là. Je sais qu'entre la morgue et le four, des fois, je lui dis « Papa, t'aurais pu attraper une belle bronchite. Hein, parce que t'as été gelé. Après, on te fait brûler à je ne sais pas combien de degrés. » Des fois, je dis, il va tousser. Je me suis dit, il va être malade. Alors, je le protège à ma façon. Voilà, et il est là avec ses petits anges. Et je suis heureuse parce que je sais qu'il sait que je pense à lui. Et des fois, je lui dis, ça va, papa. Et là, quand je le touche, je suis sûre qu'il doit rigoler. Je suis sûre qu'il se marre parce qu'il m'a toujours dit, Bouboule, ah, t'es une coquine, toi. Hein. Et il est là. Et ça, c'est mon papa. Alors là. Il faudrait pas qu'on me dise quoi que ce soit. Hein. Il y en a qui pensent que je suis folle dingue, complètement frappée. On ne garde pas les cendres d'un mort à domicile. Mais je suis désolée, pour moi, c'est pas un mort, c'est mon père. Si j'avais, oui, un vœu à faire, c'est que on nous jette ensemble. Et j'en ai déjà parlé. On garde mon père pour l'instant. J'en ai parlé à mon fils, à Cyril. S'il devait m'arriver quelque chose... je veux que être projeté avec lui. Comme ça, on se quitte encore moins. On est main dans la main, dans la poussière. Et on fait un mélange. Quitte à ouvrir les deux urnes et à faire un mélange, on part ensemble. Mais par contre, je n'irai pas dans l'eau. Parce que j'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager. Et j'ai peur des poissons et des crabes. Mais par contre, la campagne, les merles, les petits rouges-gorges, les pivers, les fleurs, qu'est-ce que je serais bien avec lui? On se marrerait. On se cavalerait après entre deux champs de maïs, deux allées de colza. Ce serait la course éperdue. Ah, ça, j'aimerais.
Je suis mort. Je suis bien mort.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture.
Là, c'est le cercueil qu'on prépare pour la personne qui va être enterrée mercredi. Alors, on sort le capiton, les ouates, le cercueil pour faire la préparation pour mettre la personne dedans.
prépare la plaque qui sera posée sur le cercueil. J'écris le nom, le prénom de du défunt. Il faut bien vérifier les orthographes. Attention.
Vous qui n'avez qu'une date, encore pour l'instant, où la voulez-vous ? À la campagne ? À la mer ? À la montagne ? En pyramide de Pharaon ? Au fond du jardin ? Au Panthéon ? Votre tombe, vous la voulez où ? Ouais. Aujourd'hui, retour sur le point de mire. Quelques fragments de ce que nous inventons, nous, les éternels trompe-la-mort. Notre point commun, c'est le point mort. Alors, ça tombe à pic. Mais tombe, c'est plus trop la mode, hein. Maintenant, c'est l'urne. Plus propre, plus commode pour le voyage. Costard en sapin, petit jardin sur le ventre. Ça se porte moins. Alors aujourd'hui, on va narguer la Camarde. Votre tombe, vous la voulez où ? Pour le dernier passage, la porte étroite, la fin des haricots, la fin de mois difficile, avant les très, 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 très grandes vacances. Dis-la à Tébi, est allé voir un peu n'importe qui, pas tout à fait n'importe qui, a posé la question, votre tombe, vous la voyez où ? Vous la voulez où ? Vous allez voir ce que ça a donné, c'est une heure. Au point mort, parce que le point mort, c'est notre ligne d'horizon, c'est notre point de fuite.
Des fois, les gens ont besoin de place dans un caveau ou dans une sépulture. Et pour gagner de la place, on enlève un corps ou on le réduit. Alors quand on assiste à ça, c'est... Si on n'est que ça, ça fait peur, hein. Quand on voit les ravages de la terre, des asticots, du temps, je trouve que la crémation, c'est plus propre. Et puis, c'est beaucoup plus souple, hein. C'est surtout la facilité. Regardez, vous voulez déplacer, par exemple, ne serait-ce qu'un reliquaire, il vous faut un transport, il faut le déclarer à la police, ou un véhicule, alors qu'une urne, vous la prenez dans votre voiture, vous avez votre petit certificat, et hop, vous allez où vous voulez, hein, aussi bien à l'étranger. Moi, je trouve que c'est une bonne solution, la crémation, c'est une bonne solution. Alors, nous, on a établi le truc que le fiston, il nous fera cramer, et puis il en fera ce qu'il voudra. Si on peut être du côté des Alpes de Haute-Provence, bon, c'est mieux, mais si ça se fait pas, ça se fait pas. Après nous, on n'a plus à le savoir, quoi.
Je suis née le 7 avril 1913. Oui, j'ai deux enfants, mais je les ai toujours. Deux filles. Ouais. Et qu'il y en a une que je vois tous les jours. Mais elle a mon domicile là. Elle vient tous les matins me voir dans le foyer où je suis. Le foyer, il est très, très bien. Voilà, ma femme de ménage. Je ne connais personne de chez moi qui n'ait pas été enterré. Ouais. Ah ouais, ils sont tous au cimetière. Ouais. Ah ouais. Je veux pas qu'on brûle. C'est trop douloureux. Des brûlures. Parce que moi, j'ai eu la jambe brûlée. Alors, je sais ce que c'est. Ébouillanté. Ben, c'est trop chaud. Non. Hein. J'avais 12 ans, 11 ans même. 11 ans. Je descendais un plein seau d'eau bouillante que je descendais à la fontaine. Parce qu'il y avait une fontaine dans le pays. Et alors, moi, c'était un peu gelé, avec ça, je portais le seau, puis il a tombé, puis j'étais bouillantée. D'ailleurs, moi, les marques, je les ai. Ah oui. Après, je me suis mise à boiter.
Je suis mort. Je suis bien mort. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur mon sort.
Je vais te parler de ce que je pense. Hein. Ben, on est des chrétiens. Hein. Et puis nous sommes des gens du voyage, des gitans. Hein. Et puis aujourd'hui, nous, on est comblés. On a trouvé le Seigneur. Et on croit à la vie éternelle. Hein. On sait qu'un jour, on doit tous mourir. Hein. Mais l'apôtre a dit que la mort est un gain. Hein. Après la mort, il y a encore la vie. Hein. Bien sûr, la Bible dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Loin de Dieu ou près de Dieu. Hein? Il y en a qui se font brûler. Hein? Ils croient, parce que c'est comme ça, qu'ils sont brûlés, que ça va être terminé. Que l'âme va être brûlée et tout va disparaître. Et nous, la Bible, elle dit même qu'une bombe atomique tomberait sur nous. Vous voyez, c'est important. Hein? Même qu'elle tomberait une bombe atomique sur nous, l'âme, on peut pas. On peut pas le brûler. Ça appartient au Seigneur et ça appartient à Dieu. Vous voyez? Et on peut rien faire. Voilà, ça c'est impossible. Alors il y en a qui croient se débarrasser comme ça. Tiens, je vais me brûler, il m'aura pas. Tiens, je vais me faire incinérer. Hein? Ben, c'est pareil, brûler ou incinérer, c'est la même chose. Je vais être dans le feu, puis c'est fini. Ben non, c'est pas fini. Il y aura un jugement. Comme tout le monde. Hein? J'irai au cimetière. Hein? Et puis là, bon ben, on veillera pendant 3 jours, comme Jésus a dit, vous veillerez 3 jours. Je sais que je serai pas mort déjà. Hein? Je sais que je suis au ciel, c'est vrai. Hein? Je sais que, mais je verrai pas tout de suite au ciel. Mais j'irai d'un endroit de repos où je serai très bien, hein, en attendant que Jésus revienne pour partir au ciel.
Moi, je m'appelle Labiche. Je suis femme de prédicateur de mission évangélique Cigagne. Mon corps, faut l'enterrer aussi au cimetière, pour l'enterrer aussi, comme on fait tous. Jésus, comme qui avait dans les avant, comme il y avait des sépulcres, c'est qu'il mettait les corps dans les sépulcres. Ben nous, c'est plus des sépulcres, c'est des tombes maintenant. Brûler, non, ça n'existe pas. En principe, c'est pas les gitans ne le faisant pas.
Comprenez? On peut rien faire. Mais il y en a qui croient comme ça. Ils ont dépensé comme ça. Ils croient s'en tirer comme ça. C'est impossible.
C'est pas évangéliste en plus.
Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète, juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage.
La chanson est belle, une des plus belles, mais n'empêche que tonton Georges n'est pas enterré sur la plage de Sète, et pourtant sa supplique était sublime. Eh, on y pense tous à ça, non? Ah oui, tous, depuis qu'on se tient sur nos pattes de derrière, on se dit... Où est-ce que je vais passer ces très très longues vacances? Voyons voir, qu'est-ce qui me plairait là-dedans? Et ben voilà, c'est la question que Dila a posée. Des gens, vous avez vu, des gitans évangélistes, comment les uns voient les choses, comment la vieille dame ne veut pas être brûlée parce qu'elle a été brûlée quand elle était petite. 40% des Français maintenant, c'est assez récent ce grand chambardement, disent opter pour la crémation, ce qui pose plein de problèmes nouveaux pour nous autres qui sommes plutôt des gens de la terre. Alors voilà, c'est des mutations qui en disent évidemment très très long. Mais bien sûr qu'on en dit forcément très très long dès lors qu'on regarde ce point mort. C'est un point mort qui nous quitte jamais des yeux et que nous ne quittons jamais des yeux, puisque on sait bien que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et que nous passons notre vie, à la différence des nouveaux réactionnaires, à penser à ça. Et uniquement à ça.
J'ai visité, entre autres, un certain nombre de catacombes en République tchèque, en Italie, et je songe en particulier aux catacombes de Palerme, où il y a là, dans les sous-sols, en dessous du cimetière,
André Chabot,
des couloirs dans lesquels on peut, je ne vais pas dire admirer, mais on peut observer un spectacle complètement étrange de momies qui sont alignées le long des murs. Alors je dirais pas qu'elles ont l'air toutes fraîches, hein, pour la plupart elles sont plutôt en mauvais état, mais elles sont toujours là. Et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de me prolonger après ma mort. J'ai imaginé, disons que ce serait pour moi une espèce d'idéal, j'ai imaginé que ma tombe à venir pourrait être le musée posthume que j'aurais pas eu de mon vivant. C'est-à-dire que je m'imagine très bien dans une espèce de bunker, un lieu qui défie le temps, peut-être pas l'éternité, parce que ça, soyons raisonnables, mais un lieu dans lequel je serai toujours là, entouré de tous mes travaux, de tous mes objets. Et à la limite, ce qui m'amuserait assez, c'est d'être là, momifié, visible donc, dans une chasse, un peu comme, je sais pas, la Belle au bois dormant, et en train de regarder, finalement, même avec un œil mort, les visiteurs qui passeraient dans mon musée posthume.
Je suis mort.
Moi, je m'appelle Shakita. Moi, je suis malien. Ça fait 4 ans, moi, je suis en France. C'est très dur à supporter. C'est pas facile parce que sans papier, tu peux pas trouver le travail que tu veux toujours. Tu fais que le travail dur. Si je meurs, au moins si j'avais au moins un papier, j'allais prendre l'assurance de vie, puis je travaille correctement comme les autres. J'allais prendre l'assurance de vie. Avec l'assurance de vie, si je suis mort, ils vont s'occuper de mon corps pour envoyer mon corps chez moi, pour y aller enterrer mon corps chez moi, au Mali. Bon, en tout cas, si je suis mort, mon corps sera brûlé. On sera obligé d'appeler les gens de voirie qui viennent prendre le corps pour y aller brûler. Bon, un être humain, on ne veut pas que notre corps soit comme ça. Personne ne souhaite ça. Si tu vois que ton corps sera brûlé, parce que vraiment, vraiment, tu n'as pas de moyens du tout, tu n'as aucune ressource, quoi. Notre religion, je veux que mon corps soit enterré comme les autres. Je ne veux pas que mon corps soit brûlé.
Votre tombe, vous la voyez où? Ça se passe comment, ce dernier passage? C'est une question que vous pouvez poser à des amis. C'est pas une question triste du tout, puisque c'est une question qui est présente dans nos esprits. Et sans dit long. Posez-vous la question, d'ailleurs. Vous allez découvrir des choses en vous-même. Et voyez que cet artiste, André Chabot, lui, se voit, se met en scène, se projette, et les projections, bien évidemment, ou bien ce Malien sans papier, lui, l'important, c'est le retour au pays. Le pays, c'est la terre natale. Et évidemment que la terre natale, c'est pas des cendres, même si les cendres sont fertiles. Ah oui, les cendres, ça fertilise aussi. Faut pas croire que c'est stérile, la cendre. Mais la terre a moins d'importance aujourd'hui. La Pachamama, c'est plus chez nous, ça. On est hors sol. On se croit hors sol. Le sommes-nous vraiment? Question. Question évidemment sans réponse. Et sans fin et sans fond. Alors voilà une famille juive que Dila Tebi a rencontré et qui a, elle, on dit une famille, là vraiment, vous allez voir, qui a, elle, sa conception du dernier passage.
À partir du moment où il y a une âme qui est pure et qui est éternelle, qui elle ne meurt jamais, hein, c'est comme une maison, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui voit sa maison brûler et ça lui fait un choc. Ben, c'est exactement la même chose. Le corps, quand on voit un corps déchiqueté et tout, l'âme, elle souffre parce qu'elle voit comme si que, bon, on a détruit sa maison, on a détruit là où elle a vécu. Ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce truc-là. Alors, le corps doit rester intact, hein, reconduire le corps avec les rituels sous la terre pour que l'âme puisse monter
au ciel
le plus vite possible.
Est-ce qu'il faut absolument enterrer le corps?
Absolument. Absolument.
C'est une obligation.
Pour que l'âme puisse monter avec apaisement. Ni brûlé, ni comme font certaines personnes, ni déchiqueté, ni... Non, il faut absolument le respecter, parce que c'est quelque chose quand même qui a respecté cette éternité qui était en lui.
Et est-ce que vous avez donc fait le nécessaire donc, de votre vivant aujourd'hui pour que ça se passe comme ça?
Oh, ben, j'ai pas besoin de le faire, ça se fait automatiquement. Il n'y a aucun problème là-dessus, on est tous solidaires là-dessus. Et tout de suite, bien entendu, pas d'autopsie.
Pas d'autopsie, donc...
Pas d'autopsie, rien.
Même en cas d'accident. Pas d'autopsie. C'est strictement interdit.
Il faut respecter.
Vous, c'est clair, donc si votre mari doit mourir...
Il n'y a aucun problème, ça se passera aussi bien de son côté comme du bien. Et les enfants, vous voyez, ils sont très jeunes et ils pensent comme nous. Parce que nous sommes des gens croyants.
Parce que nous, on ne croit pas à la mort.
Non, voilà.
La mort n'existe pas.
On ne croit pas à la mort.
Ça n'existe pas, la mort.
L'âme reste éternelle. Toujours. Il faut comparer l'âme au moteur d'une voiture.
Exactement.
Et le corps humain, c'est, si vous voulez, c'est la carrosserie. Exactement. Et le moteur, c'est l'âme. La carrosserie sert à rien sans l'âme, mais l'âme peut servir sans la carrosserie.
La mort n'existe pas.
Vous avez des enfants?
Oui, on en a trois. On en a eu quatre. On en a perdu un. Accident. Dans le gros chagrin qu'on a eu, on a arrêté directement vite l'autopsie. Parce que c'était quand même un accident.
Il est tout petit, là, garçon.
Et puis bon, on a fait les choses en règle et on l'a emmené à Jérusalem.
Et avec quel âge?
16 ans.
Parce que nous, d'après la Kabbale, évidemment, il y a la résurrection. Hein.
Dans notre tête, on sait qu'on va le revoir un jour.
Ça coûte cher, là, oui. Ben, si demain, je me lève plus, ce sera ma fin du monde.
Mon corps, il va s'en aller, je ne sais pas où. Parce que quand tu es mort, tu ne vois plus. Tu n'entends plus. Tu ne réfléchis plus. Ça y est, c'est fini. Tu n'existes plus. Ah, tu n'existes plus sur la terre. On dirait que tu n'étais pas né, quoi. Alors, je t'ai dit, si un jour je suis mort, ils vont trouver où? Quelle adresse de ma famille chez moi? Il va trouver mon nom, hein, bien sûr, c'est ma carte d'identité. Il faut qu'ils vont faire appel là-bas, à l'île de la Réunion. Mais où à l'île de la Réunion? Doré Samy. Je m'appelle Doré Samy, moi. Ils vont contacter la mairie de Saint-Denis où je suis né. Mais ce sera trop tard, je serai dans la fosse commune. Alors? Bah oui, cousin. Toutes les SDF qui n'ont pas aucun papier de famille, je suis heureux. Il y en a qui sont morts devant moi comme ça. Hein. Eh ouais, Abdallah, Abdallah, il connaît bien la routine. Abdallah.
Oui.
Quand t'as pas de famille sur toi, quand tu es mort, tu mets dans la fosse commune.
Des fois, il y a des gens qui sont vieux de 85-90 ans, ils crèvent, on ne sait même pas où est-ce qu'on les enterre. Alors que moi, à 53 ans, où est-ce qu'on va me mettre? Je veux...
Bellement, quoi.
Simplement.
Bellement.
Qu'on me reprenne mon bonne dignité. Crever en bonne et due forme. Pas comme une merde.
From the detria de la fin de je suis mort, qui est mieux? Bah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, se la met aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette aux chiens. Cela dit, dans ce putain de cimetière, j'ai perdu mon humeur au morose. Jamais plus personne ne vient m'emmerder quand je me repose. À faire l'amour avec la terre, j'ai enfanté des petits vers blancs qui me nettoient, qui me digèrent, qui font leur nid au creux de mes dents. Arrêtez-moi si je déconne. Arrêtez-moi ou passez une voix. Sans violette, sans pleurs ni couronne, venez perdre un moment cafard. Je vous ferai visiter des cousins morts à la guerre ou morts de rien, esprit qui vous cligne de l'œil, les bras tendus hors du cercueil. Frère, la de
donc c'est la grande salle des fours.
Oui, c'est la salle où tous les deux appareils sont visés par la famille, mais par système vidéo. Donc vous avez la porte qui s'ouvre, le bras qui pousse le cercueil une fois rentré, le bras ressort, la porte se ferme et c'est tout. Et après, on ne voit plus rien.
Et la famille, elle le voit tout ça?
Et la famille peut accéder, disons, voir ça par système vidéo, si elle désire. Autrement, nous le faisons selon leur volonté. Car il y a des personnes qui ne veulent pas assister, on n'oblige personne.
Et ce métier, celui que vous faites, on l'appelle comment?
Dans notre profession, c'est les opérateurs de four. Pour moi, c'est un métier que je fais, et puis j'ai le plaisir de le faire. C'est un métier d'avenir, et j'espère continuer longtemps à le faire, puisque je le fais avec respect. Moi, je vais faire pareil, je serai incinéré aussi. C'est ma volonté, puisque je veux être mis en mer, et la seule façon d'être mis en mer, c'est d'être incinéré. Mon plaisir, c'est d'aller nager avec les poissons et tout ce qui est aquatique. J'irai les rejoindre plus tard.
Pour la commémoration, vos proches, ils feront comment?
Ils viendront se baigner avec moi, c'est tout. Comme ça, si vous voulez, on ne laissera pas une séculture sans entretien, sans rien. Et puis pour moi, c'est, ça sera quand même beaucoup plus propre.
Ah ouais, ouais, c'est comme ça. C'est notre époque, plus propre, vidéo, voire l'incinération vidéo. Ça traduit, ça trahit, ça, c'est nous aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui, la façon dont nous voyons ce, notre installation dans l'éternité. Vous savez que l'éternité, c'est long, disait Kafka, surtout vers la fin. Voilà ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, on a vu, il y a la résurrection, la réincarnation, la mort qui n'existe pas, l'âme qui continue, quoi qu'il arrive. Enfin, tout ce que nous avons inventé depuis la nuit des temps pour passer ce cap, ce cap difficile dont on avait fait une peine, hein, la peine de mort. Or, pour beaucoup d'anciens et aujourd'hui d'hommes et de femmes sur cette terre, c'est pas forcément une peine. On a vu avec nos amis juifs tout elle, pour qui la mort n'existe pas. Donc, on peut croire que pour eux, ben la peine de mort n'existe pas non plus. Des grandes questions, ça fout le vertige, hein, ces histoires-là. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, en haut de ce point mort.
Claude, s'il te plaît.
Oui.
Sur mon bureau là,
oui.
J'ai une petite boîte.
Oui.
Il y a des pastilles dedans. Je suis né le 27 novembre 1896. J'ai la chance d'ensemble d'avoir une bonne santé. Et alors je vis tranquillement. Lorsqu'on a vécu réellement en chair et en os, bon, eh ben, on peut rester ainsi jusqu'à la fin. Je suis de la vieille école, par conséquent, on me met dans un cercueil et on m'enterre. Au lieu de se faire incinérer. J'ai déjà le tombeau où repose ma femme, où repose mon épouse. C'est à Saint-Cloud parce que elle avait la famille à Saint-Cloud. Et on me mettra à côté d'elle.
Ça m'a rendu beaucoup triste puisque c'était que ce grand-père-là que j'ai vu. Parce que l'autre, je l'ai pas vu, parce qu'il est mort quand j'ai pas encore né. Et puis, que Pépé Babou, je l'ai connu. Mais puisque je suis mort, ben, je verrai pas. Non, c'est, oui. J'aurais préféré que ça fasse pour moi maintenant, comme mon pépé, dans une tombe en bois qui avec une croix dessus. Mais j'ai pas envie aussi qu'il soit triste. Tout le monde est triste quand quelqu'un meurt. Alors. Je sais pas encore. Je vais voir quand je serai plus grand. Parce que j'ai du temps devant moi et je pourrais y réfléchir après. Mais comme j'ai déjà vu une tombe, j'ai vu comment c'était, c'est pas très très moche.
J'avais 10 ans. J'étais dans un grand lit blanc avec un petit garçon. On dormait quand une dame âgée est venue nous chercher. On est arrivé dans un grand corridor avec des escaliers qui descendaient. Et sur ces escaliers, et déposer des tables avec des grandes nappes blanches. On s'est mis à sauter de table en table, et plus on sautait, plus on riait, plus on grandissait. Et à un moment, je me suis arrêtée. J'étais en colère, je pleurais. Je lui ai dit d'arrêter, mais il continuait à rire, et il a continué. Et je me suis retrouvée à table avec 13 personnes. Il y avait mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, si j'avais un marteau. Et à la fin du repas, la petite fille devenue grande, le petit garçon devenu grand, a voulu sauter par-dessus la table où on mangeait. Je savais que c'était un jeu, mais d'autres ne le savaient pas. Il s'est lancé, il a sauté, et là, le temps s'est arrêté. Il était au-dessus de la table, c'était impressionnant. Il est tombé sur le glacis, un coup sec, horrible. Les gens se sont mis à pleurer. Moi, je savais que c'était un jeu. La vieille dame s'est levée et a dit « C'est la vie. » Mon père a baissé la tête en disant « Prends les cons. » Et il s'est relevé. C'était un mannequin. Et deux petits enfants sont arrivés. Ils nous ont fait écouter le bruit de la chute de la mort. Qu'ils avaient enregistré. Ils riaient. Ils s'ont pris la main en souriant. Ils sont repartis en sens inverse, vers le corridor, vers les tables, en souriant. C'est ça, en souriant.
Votre tombe, vous la voulez où? On parlait tout à l'heure, quelqu'un nous parlait de la nécessité impérieuse d'être enterré. Pour certains, eh ben, chez les Zoroastres, on n'enterre surtout pas parce que le corps du défunt qui appartient au prêtre est une souillure. Alors les corps, vous le savez peut-être, sont placés en haut de tours du silence et des tours. On place le corps du défunt qui reste là et est ensuite déchiqueté par des oiseaux de proie et disparaissent de cette façon. C'est un des rituels, une des cérémonies, il ne faut pas mélanger cérémonie et rituel, voilà, chez les Zoroastres. On voit qu'il y a tout un tas de rituels différents et donc de lieux différents pour le dernier séjour.
Je suis mort. Je suis bien mort. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur mon sort.
Ah, ça, c'est du granit. C'est solide, hein, ça, c'est solide. Et c'est poli, vous avez vu, ça brille.
C'est quelle matière?
Ah, ça, c'est du granit. Là, c'est du granit qui vient des Vosges. Vous avez ici un granit qui vient de Bretagne, qui, lui, ne brille pas, mais il est bouchardé. Vous voyez? Et puis après, vous avez des granites qui viennent de tous les endroits du monde. Vous avez ici un granit qui vient de Norvège. Ça, c'est un granit africain. Hein, c'est monument très bon. Mais est-ce que vous avez vu le clou de l'exposition? Je suis sûr que vous n'avez pas vu. On essaye aussi de faire des choses assez originales, comme un crayon. Est-ce que vous avez vu le crayon?
Ah non.
Quelqu'un qui a peut-être écrit ses mémoires ou fait un journal pourrait avoir ça. Vous voyez, alors vous avez ici, on dirait comme un petit calepin avec un crayon. Peut-être un écrivain. Regardez, il y en a un autre, il y a une valise. Hein, c'est la valise, vous voyez, la valise, et puis le sens de la vie, comme ça, vous voyez, la vie qui se rétrécit, qui s'en va un peu vers l'horizon.
Vous êtes un peu poète.
J'ai souvent appris beaucoup de poésie. Je pourrais vous réciter des poésies, mais c'est peut-être pas le lieu d'en faire.
Mais pourquoi, justement?
Hein, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis rester loin de toi plus longtemps.
Vous en connaissez d'autres?
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour. Un soir, t'en souviens-tu, nous voguions en silence, et on entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout d'un coup, du rivage charmé, travers les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est le lac de la Martine.
Je suis mort. Je suis bien mort. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur mon sort. Elle est enfin venue, la femme que j'adore.
Il y a ce qu'on appelle les momies des Guanajuato, quoi. C'est une région, c'est des momies qui ont suivi donc des traitements qu'on connaît mal encore, tu vois. C'était tellement des savants qui ont souffert ça, que je me dis c'est génial, aujourd'hui on a comme la possibilité d'avoir ces genres de pièces, quoi, et des cultures par rapport à l'embellissement du corps. Mais en ce qui me concerne, honnêtement, non, j'ai pas envie que mon corps reste, mon squelette soit toujours pour toujours. Non, au contraire, quoi, j'ai envie vraiment que ça sert à quelque chose, quoi. Enfin, quelque chose de naturel. Me faire bouffer pour les vers des terres, c'est toujours quand même organique, donc ça va alimenter la terre. Je me dis ça va faire pousser des fleurs, quoi, telles que j'ai ces souvenirs d'enfance, tu vois, des belles fleurs, des couleurs magnifiques et tout. C'est pas les fleurs, hein, qui t'amènent, enfin que t'achètes dans le marché, c'est ce qui pousse aussi là-bas, quoi. Donc oui, bah c'est une belle idée quand même de renouvellement. Donc oui, bah si je peux être utile à faire pousser des fleurs, pourquoi pas, quoi. Mais ceci dit, les jours de ma mort, je voudrais quand même être au Mexique, quoi. Les gens picolent, tu vois, plein des histoires. Les bonnes femmes qui te racontent le futur, quoi, ce qui va arriver dans ta vie. Alors qu'on est dans un cimetière, on est en plein fête pour les morts. T'as des bagarres, des coqs aussi, quoi, tu vois. Et les gens font des paris là-dessus. C'est vraiment ce qui me va le mieux, ce qui me convient le mieux. Tu vois, sous terre, en me disant là-haut, il y a quelque chose qui se passe, quoi. J'entends les gens danser, j'entends les gens rire, j'entends les gens chanter, tu vois. Et puis j'entends les coqs à côté, j'entends les paris des gens. J'ai envie que les gens soient, qui se marrent, quoi. Finalement, vraiment, je suis sûre certaine que je vais très bien, quoi, dans l'au-delà.
Me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas, est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubannées par deux, qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats. Ah, 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 ah. Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Ils se poussent du cœur pour être le plus triste. Ils se poussent du bras pour être le premier. Le premier. J'ai amené des vieilles qui ne me connaissaient plus. J'ai amené des enfants qui ne me connaissaient pas. Pense au prix des fleurs et trouve indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le lilas. Ah, 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 ah.
Lettres d'amour enrubannées par deux, c'est des paroles de Jacques Brel. Merci à tous, merci à Dilatebi pour ce reportage. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, sauf la réponse à la question. Votre tombe, vous la voulez où? Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.com ainsi que sur la-bas.org, la-bas.org. où vous pouvez retrouver beaucoup d'autres choses, 900 et quelques numéros de là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Éric Morin et Benoît Massy, c'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien l'avouer, le reconnaître, assisté de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert, qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.